Europe 1.
Écoutez le monde changer. Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Pendant une heure avec le docteur Jimmy Mohamed, nous essayons de vous éclairer sur les sujets de santé qui vous préoccupent dans la bonne humeur, parce que oui, on peut parler de santé sans se crisper, sans trembler systématiquement. N'est-ce pas Jimmy? Bonjour.
C'est vrai, bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, focus sur notre cerveau, organe qui nous fascine. Il est aussi probablement le plus complexe du corps humain. C'est lui qui gère nos émotions, nos comportements, nos actions. Et malheureusement, parfois, il tombe malade. Alzheimer, sclérose en plaques, Parkinson et j'en passe, tous les mystères de ces maladies n'ont pas été percés, mais la recherche est très active, surtout en France, des avancées présentes et à venir dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour ce faire, nous recevrons le professeur Alexis Brice. Il est neurologue et directeur général de l'Institut du cerveau, l'un des centres de recherche leader dans le monde. Ça, c'est la partie, c'est pour la suite. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Nous nous intéresserons à l'ablation des végétations. Savez-vous d'ailleurs ce que sont les végétations présentes dans les fosses nasales et pourquoi il faut parfois les retirer, généralement chez les enfants? On vous expliquera tout ça. Enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle nous parlera de préférences sexuelles qui sont parfois un obstacle dans certaines relations.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921, donc celles que vous nous avez laissées, notamment pendant l'été, elles ont été nombreuses. Et on va prendre celle aujourd'hui de Marjorie, elle a 38 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'aurais une petite question. J'ai entendu dire que les pédiatres conseillent de vacciner les enfants cette année contre la grippe et la gastro à cause de la Covid-19, mais je comprends pas trop le rapport. Est-ce que vous pouvez m'expliquer et à partir de quel âge il faudrait le faire? Voilà, je vous remercie beaucoup, bon après-midi.
Alors Jimmy, évidemment, retour des questions autour du coronavirus, on est toujours dans cette épidémie. Là, avec la rentrée scolaire qui approche, beaucoup de parents s'inquiètent. Alors dites-nous effectivement, pourquoi certains pédiatres ont lancé cet appel pour inciter donc les enfants à se faire vacciner cette année contre la grippe et la gastro?
Alors tout simplement parce que je pense que la rentrée va être explosive, pas forcément à cause du coronavirus, mais à cause des pathologies hivernales que sont la gastro-entérite et la grippe qui vont arriver. Sauf que les symptômes du coronavirus sont très similaires à ceux de la grippe ou de la gastro. Dans 15 à 30% des cas de Covid chez l'enfant, on a des signes digestifs. Ce qui veut donc dire que dès lors que votre enfant aura de la température, dès lors qu'il va tousser, dès lors qu'il va vomir, avoir de la diarrhée, on va vous demander d'aller chez le médecin. Et donc, on va prescrire un test. Combien de tests allons-nous faire? C'est la première question. Ensuite, il faut se poser la question de l'acceptabilité du test. Ça reste pas désagréable, mais quand même, chez un enfant, c'est un peu compliqué. Ça a un coût. C'est une cinquantaine d'euros. Imaginez, quand on fait 500 000 tests par semaine, il y a quand même de l'argent qui est dépensé. Mmh. Et puis, le rendement n'est pas très bon chez l'enfant. Les tests PCR sont moins positifs chez les enfants que chez les adultes, même lorsqu'ils ont la maladie. Puis, dernière conséquence, ça va permettre aussi de libérer un peu les cabinets de médecine de ville et les services d'hospitalisation, puisque chaque année, des enfants seront hospitalisés pour la gastro-entérite et pour la grippe. Et donc, en les protégeant, on permettra peut-être un second souffle pour éviter justement d'embouteiller un petit peu tout le système.
Puisqu'on parle des enfants, Jimmy, de la rentrée, qu'est-ce que vous pensez du masque obligatoire donc dès 11 ans? C'est ce qui va être le cas. Certains experts et même l'OMS disent que peut-être il faudrait le faire dès l'âge de 6 ans, le rendre obligatoire dès l'âge de 6 ans. Certains parlent de 3 ans. Vous en pensez quoi de tout ça?
Je ne sais pas, honnêtement. Je n'ai pas la compétence pour répondre à la question. Il faut être très honnête. Il faut savoir dire quand on ne sait pas. Et en revanche, il faut se poser la question de l'acceptabilité, encore une fois, et de la façon dont on va le mettre en œuvre. Nous, on a du mal à supporter le masque toute la journée.
Est-ce qu'un enfant de 6 ans va accepter de le porter sans le toucher sans cesse?
Ça va être très difficile. Et puis, est-ce qu'un enfant de 3 ans pourra le supporter? Honnêtement, on aura toujours Tati Daniel qui nous dira que leur enfant, leur neveu y arrive. Mais toute la journée, c'est compliqué. D'autant plus qu'un enfant de 3 ans qui n'a pas de masque, qui a un masque en face de lui, ne lui a pas les expressions du visage
des adultes. Pour les tout petits, c'est compliqué. Quand on apprend à parler, par exemple.
Exactement. Donc, pour les troubles du langage, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Bref, on vit une période un peu particulière. Je pense qu'il faut qu'on patiente un petit peu.
Jimmy, juste une dernière petite question. Qu'est-ce que vous diriez aux enfants là, qui vont rentrer à l'école? Certains vont être anxieux. Nous, parents, déjà, on est anxieux. Ils ont peut-être un peu oublié le lavage des mains pendant les vacances. On remet un petit brief là, avant la rentrée.
On ne parle que du masque. On a l'impression que l'épidémie se limite au masque et qu'il n'y a que ce mode de transmission. Or, ça passe aussi par les mains. Lorsqu'on tousse et lorsqu'on n'explique pas aux enfants qu'il faut tousser dans le coude, qu'il ne faut
petite
pas éternuer dans ses mains.
Pour les enfants,
mais il faut
se laver
les mains. On a vécu une période assez extraordinaire où on s'est lavé les mains 50 fois par jour. Et puis là, j'ai l'impression qu'on a relâché les gestes barrières. Donc voilà, lavez-vous les mains, mettez-vous à distance. Et puis effectivement, le masque, Ça fait partie aussi des mesures à utiliser.
Merci Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur cette fois. C'est celle de Manon, 37 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Bah écoutez, je vous appelais parce que l'autre fois, lors d'un dîner que j'ai organisé, j'ai reçu un invité qui m'a dit qu'il était allergique au vin. Alors voilà, je me demandais si c'était vraiment possible. Merci de votre réponse et bonne émission.
Alors Jimmy, on a pris beaucoup de temps pour le coronavirus, donc il nous en reste peu pour répondre à celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous dire effectivement donc, si l'allergie au vin, ça existe ou c'est une bonne excuse pour ne pas boire peut-être ?
Alors ça peut être une bonne excuse pour ne pas boire, mais c'est plutôt rare. C'est plutôt une intolérance et pas tellement au vin et aux sulfites. Les sulfites sont des conservateurs à base de soufre qu'on trouve dans de nombreux aliments, dans le vin plutôt blanc, dans le champagne, mais aussi dans les abricots secs et dans la moutarde.
Ah oui.
Et donc on a une intolérance qui va mimer une allergie avec de l'urticaire, donc une éruption cutanée. On va tousser, avoir le nez qui coule, une conjonctivite. On va croire que c'est une allergie, or c'est une intolérance. Et dernier petit conseil, vous pouvez observer ces sulfites dans les aliments. Regardez la liste, il y a marqué c'est des E220 à 228.
Ça c'est les sulfites.
Ça c'est les sulfites. Et puis parfois, on fait un test diagnostique à l'hôpital pour savoir si vraiment vous êtes allergique. On vous fait ingérer des sulfites de façon pure avec un peu de citron pour mieux l'assimiler. Et puis si vous êtes vraiment allergique, on vous dira d'éviter d'en prendre. Mais bon, c'est plutôt une intolérance.
C'est l'éviction alors. Hein,
c'est une éviction, mais c'est une intolérance. C'est pas une vraie allergie. C'est pas le même mécanisme allergique.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi comme Manon qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. C'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Alexis Brice. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes neurologue et directeur général de l'Institut du cerveau qu'on appelle aussi l'ICM. Alors, ça s'appelait l'ICM avant, l'Institut cerveau et de la moelle, hein, je crois que c'est ça. L'ICM, justement, a 10 ans. Et à cette occasion, à l'occasion de cet anniversaire, ici, à Sans Rendez-vous, on a souhaité mettre en lumière les travaux qui y sont menés, témoins du leadership de la France, quand même, en la matière. D'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Institut du cerveau, est-ce que nous le présenter, peut-être, nous dire ce qu'on y fait concrètement ?
Alors, si j'ai une seule phrase, je dirais qu'il s'agit de comprendre le cerveau. Comme vous l'avez dit, organe extrêmement complexe, et surtout aussi traiter les maladies du système nerveux, les maladies du cerveau qui sont nombreuses. Vous en avez cité quelques-unes, les maladies neurologiques, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, épilepsie, les maladies psychiatriques, la dépression, la schizophrénie, les troubles anxieux, et puis aussi les traumatismes qui peuvent toucher le cerveau et la moelle épinière.
Jimmy ?
Donc ça veut dire qu'en fait le domaine est très vaste puisque quand on pense à cerveau, on pense toujours à ces maladies dont vous avez énuméré, mais aussi les maladies psychiatriques, elles ont une part importante aussi dans votre institut ?
Elles ont une part importante, non seulement dans l'institut, mais aussi dans la population, puisque on considère qu'un individu sur 3 ou 4, une personne sur 3 ou 4, au cours de sa vie, est ou sera atteinte d'une maladie du cerveau, qu'elle soit neurologique ou psychiatrique.
On a parlé de maladies dont on parle depuis des années. Ça veut dire qu'encore, dans des maladies comme la dépression, comme certains autres troubles psychiatriques, la schizophrénie, on est loin d'avoir tout compris là aussi.
Alors, je crois que dans beaucoup de maladies du cerveau, on est au tout début.
Au tout début, carrément, vous dites ça. Ouais. Donc vous avez encore beaucoup de travail devant vous. 10 ans d'anniversaire, mais il reste encore un grand chemin à parcourir.
Je crois que plus on avance, plus on se rend compte du chemin à parcourir pour le comprendre. Alors c'est vrai que les traitements, on a beaucoup progressé, mais il y a des maladies qui nous résistent encore.
Et pour le parcourir, ce chemin qui est donc encore long, on l'a compris, je crois que vous êtes très nombreux à l'Institut du cerveau. Il y a 700 chercheurs et techniciens. Et puis, ce qu'on ignore peut-être, c'est que les patients, eux aussi, ont un rôle très important dans votre institut. Ils y sont omniprésents dans les travaux. Hein.
Oui, alors vous avez mentionné, c'est les 10 ans de l'Institut. Et ça nous permet de dire que c'est vraiment un succès quand on regarde le chemin parcouru. Et ce qui est important, je crois, c'est les raisons de ce succès. Et ces raisons, elles sont multiples. La première, c'est que c'est un partenariat entre une fondation, la fondation de l'Institut du cerveau, et des partenaires publics qui apportent une force. Des chercheurs, du CNRS, de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des enseignants-chercheurs de Sorbonne Université, une très grande université française, et puis l'assistance publique hôpitaux de Paris avec tous ces médecins spécialistes. C'est eux qui travaillent ensemble avec la fondation qui, elle, apporte des ressources qui viennent des dons du public, de sa générosité, mais aussi de grands mécènes, et puis qui apportent aussi, et c'est très important, une grande souplesse, une réactivité qui nous permet d'être agiles. Et nous avons réussi à créer donc un écosystème tout à fait unique, puisqu'on va, comme vous le disiez, du patient, dans le site de la Pitié-Salpêtrière, jusqu'à l'entrepreneur, jusqu'au start-upper, en passant bien sûr par les chercheurs, les cliniciens-chercheurs. Et cette force, Elle nous permet d'accélérer les découvertes et d'accélérer les applications de ces découvertes. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment raccourcir le temps de la découverte à l'application.
Jimmy.
On l'a compris, vous installez donc dans la durée avec des travaux au long cours, mais vos équipes ont su aussi s'adapter. Par exemple, avec cette période un peu inédite de coronavirus, est-ce que vous avez fait des travaux particuliers?
Pourtant, c'est pas évident. Le coronavirus, on se dit c'est de l'infectio. Que vont faire tous ces chercheurs dans les neurosciences, le cerveau? Si, pourtant vous avez joué un rôle très important.
Alors effectivement, on n'était pas destiné à travailler sur la Covid, mais compte tenu de ce qu'on a vu et surtout des atteintes très fréquentes du système nerveux, du cerveau ou de la moelle dans ces pathologies, on s'y est intéressé. Et ce, à trois titres. Le premier, c'est parce que des médecins de l'Institut se sont portés volontaires pour la prise en charge des patients à un moment où on avait besoin de beaucoup de médecins. Ensuite, parce que nos biologistes en interne ont développé des tests de diagnostic.
Tests salivaires notamment, je crois.
Et en particulier les tests salivaires, Marie-Claude Potier, Yannick Marie ont mis en place ces tests qui sont beaucoup plus faciles à pratiquer et qui pourraient, dans le futur, représenter une alternative aux tests nasopharyngés du fait de leur...
Un futur qui se dessine dans combien de temps? Parce que le futur, ça reste... C'est que le temps de la recherche n'est pas le même que le temps un peu des médias. Mais
vous les attendez, ces tests salivaires?
On les attend, même nous, pour nous, en médecine de ville, en fait. Quand on parlait tout à l'heure des enfants, c'est vrai qu'un test salivaire ou répété, c'est mieux. Donc, est-ce qu'on a une perspective un peu pour ces tests?
Oui, elle dépend bien sûr de d'autres instances,
qui vont décider de
leur utilisation. Mais je lisais que, par exemple, dans l'université de Liège, l'université va offrir ses tests salivaires à l'ensemble de ses étudiants et professeurs. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se développer et qu'en tout cas, auquel on a contribué à la mise en place. Et puis, le dernier aspect, c'est vraiment les projets de recherche sur la Covid. Et là, on a un gros projet de cohorte qui est mené par Cécile Delorme, Jean-Yves Delade, Jean-Christophe Corvol, avec le soutien de la fondation FIA, la Fédération internationale d'automobile, et qui consiste à colliger l'ensemble des patients qui ont des manifestations neurologiques ou psychiatriques liées à l'infection Covid.
C'est-à-dire, on parle de quoi, là, concrètement?
Alors, on parle de multitude d'atteintes dont certaines sont plus fréquentes que d'autres.
Donc on a découvert l'existence, même déjà en Chine, on n'avait pas forcément entendu ça au début de l'épidémie. On les a vus apparaître un peu plus tard.
Associées souvent à des formes
et
sévères.
Et c'est quoi donc?
Alors il y a bien sûr les classiques qu'on connaît bien maintenant, c'est-à-dire la perte du goût, la perte de l'odorat.
On sait qu'il y a une raison neurologique derrière, il y a quelque chose.
Signe une atteinte du système nerveux, mais aussi... Il y a fréquemment une confusion qui signe une encéphalopathie. Il y a des accidents vasculaires cérébraux qui peuvent survenir aussi.
Et donc, dans un contexte Covid, toujours.
Ça, c'est dans un contexte Covid.
C'est incroyable, Jimmy, tous ces symptômes différents.
C'est ça, parce qu'on a présenté la Covid comme une maladie respiratoire et on se rend compte que ce n'est pas du tout une maladie que respiratoire. Mais du coup, c'est-à-dire que concrètement, un patient qui fait un AVC, fait une crise d'épilepsie, fait une confusion dans un contexte de fièvre, ça peut être du coronavirus. Mais est-ce qu'on sait dans quelle fréquence? Est-ce que c'est si fréquent que ça? Parce que le goût et l'odorat, on a beaucoup parlé, mais les autres complications, est-ce qu'on a une idée de la fréquence?
Alors, on va la connaître à l'issue de cette étude. Pour l'instant, 500 patients ont déjà été inclus, ce qui est quand même
500 patients qui avaient donc des signes neurologiques, cognitifs, liés au Covid.
C'est exactement ça. Donc ça, c'est le premier versant. On va le décrire et ça va être important parce que pour pouvoir prévenir la survenue de ces complications, pour pouvoir les traiter, il faut les connaître.
Là, vous observez, on est dans une phase plutôt d'observation, c'est ça? On collige des données, et puis l'objectif, quand vous dites prévenir, ça veut dire quoi? Peut-être administrer des traitements quand on est hospitalisé pour cette infection, qui éviterait d'avoir donc un AVC, de la confusion, c'est ça l'idée?
Par exemple, oui, pour l'AVC, on peut très bien imaginer que si l'origine est liée à un problème de coagulation ou de thrombose, on puisse prévenir. Et prévenir de façon efficace la survenue de cette complication.
Est-ce qu'on peut imaginer des complications avec des maladies un peu plus chroniques, puisque l'AVC, on comprend quelque chose d'aigu, mais par exemple une sclérose en plaques, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre le coronavirus et la sclérose en plaques?
Alors, ce qu'on a étudié, c'est les conséquences de l'infection Covid sur des pathologies préexistantes. Et là, on a une étude qui vient d'être publiée, menée par Céline Louapre, dans la sclérose en plaques, qui a étudié les facteurs de gravité de Covid chez les patients avec une sclérose en plaques.
Et alors, il en sort quoi, justement ?
Eh ben, il en sort que ce sont des facteurs qu'on a observés dans la population générale, tels que l'âge et le surpoids, mais il y a aussi un facteur qui est lié à la gravité de la sclérose en plaques. Et évidemment, plus elle est grave, plus il y a un risque d'avoir une forme sévère de Covid.
Professeur Brice, ne bougez pas, dans quelques minutes, on poursuit cet entretien.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Avec une immersion passionnante aujourd'hui dans le monde de la recherche sur le cerveau. Et pour ce faire, notre invité, c'est vous, professeur Alexis Brice. Je rappelle que vous êtes neurologue et directeur général de l'Institut du cerveau. Alors à présent, on va s'arrêter un petit peu plus en détail peut-être sur quelques travaux qui sont réalisés à l'ICM. En gros, ça se divise en deux parties. Je simplifie bien sûr, hein. Il y a la recherche fondamentale et la recherche clinique. Alors, ce n'est pas évident pour tout le monde, hein. On va expliquer en détail. D'abord, on va commencer par la recherche fondamentale. Ça paraît un gros mot comme ça quand on entend. Mais c'est quoi concrètement la recherche fondamentale ?
La recherche fondamentale, c'est vraiment les grandes questions qu'on peut se poser sur le cerveau. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il se développe ? Comment est-ce qu'il fonctionne ? Quel est le rôle de chacun de ses composantes ? Il est constitué d'un nombre énorme de cellules, de l'ordre de 100 milliards de neurones, qui sont tous différents. Donc il y a une combinatoire absolument gigantesque, et comprendre comment tout ça se met en place, comment ensuite ça fonctionne et le cerveau est capable de créer toute la complexité qui fait un être humain, depuis le langage jusqu'aux émotions, c'est des questions absolument essentielles. Et comprendre ce fonctionnement, cette mise en place ou ce vieillissement est aussi nécessaire pour aborder les questions liées aux pathologies du système nerveux.
Docteur Jimmy Mohamed.
Donc vous le dites, comprendre le cerveau, c'est comprendre la maladie. Et puis si on prend un premier exemple, il y a une équipe chez vous qui travaille sur la prise de décision en fonction de notre état physique. Et apparemment, les résultats sont assez surprenants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors vous faites allusion aux travaux de l'équipe de Mathias Pessiglione, qui s'intéresse effectivement au processus de prise de décision. Un processus rapide, mais qui fait appel à différentes régions du cerveau et qui, pour simplifier vraiment, se termine par une sorte d'intégration dans la région antérieure du cerveau, qu'on appelle le cortex préfrontal.
Nous, on n'a pas l'impression, hein, quand on y pense, que prendre une décision, c'est aussi compliqué. Mais là, ce que vous nous décrivez, on a l'impression qu'on le pense, elle est là, la décision, on la prend. Mais en fait, il y a tout un cheminement électrique et compliqué, finalement. Hein,
il y a beaucoup d'échanges d'informations dans différentes régions. Et puis, ça se termine par un sort de contrôle par ce qu'on appelle ce cortex préfrontal. Et ce contrôle, il est important parce qu'il va orienter notre choix final. Et ce qu'a montré cette équipe, c'est que d'abord, on le savait, les choix sont orientés par l'état, l'humeur. Si on est dépressif ou si on est euphorique, on ne va pas prendre les mêmes décisions.
Ça, on comprend à peu près.
Mais ils ont été beaucoup plus loin. Ils ont montré que, à la fois la fatigue mentale, c'est-à-dire quand on fait des exercices qui nécessitent une attention approfondie, par exemple, mais aussi la fatigue physique.
Et c'est chez des athlètes, hein. Je crois que ces travaux ont été menés.
Ils ont mené des travaux chez des grands sportifs, hein, qu'ils ont surentraînés, entraînant une fatigue physique. Mais là encore, la conséquence est la même que la fatigue intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a une diminution du contrôle cognitif. À ce moment-là, le sujet n'ayant plus le même contrôle a tendance à être décidé de façon impulsive et pas forcément à faire les bons choix. Et ça, je crois que c'est important parce que quand on est dans des situations professionnelles de burn-out, par exemple, ben on est dans cette situation-là où on n'est pas capable d'avoir un contrôle cognitif approprié et on risque de prendre de mauvaises
décisions. Ça ne peut pas vous arriver, Jimmy, trop de sport. Au moins, vous prenez toujours des décisions sensées. Vous ne faites pas de sport, ça ne risque pas de vous poser problème.
mais vous l'avez dit, finalement, il y a une application médicale concrète. C'est que peut-être on pourrait prévenir le burn-out en mettant en place des outils justement pour éviter que ça arrive.
On pourrait probablement sentir les modifications qui sont liées avec l'apparition de telles situations.
Donc il y a d'autres travaux, hein. Ça c'est la partie donc, recherche fondamentale sur la prise de décision, ce qui est plutôt cognitif. Il y a un autre exemple de recherche fondamentale. Des chercheurs de l'ICM donc, ont travaillé à l'élaboration de la première cartographie complète de la vascularisation du cerveau chez la souris. Bon alors là ça paraît un peu compliqué, mais expliquez-nous tout ça et finalement quel est l'objectif de ces travaux.
Alors là, c'est des travaux assez impressionnants de l'équipe de Nicolas Régnier, qui, grâce à une technique nouvelle de microscopie qu'il a développée, et qui permet de voir en 3D l'ensemble d'un tissu, et là, le cerveau d'une souris, c'est-à-dire quand même quelques centimètres cubes de tissu, qui sont rendus transparents, et dans lesquels on peut marquer spécifiquement les vaisseaux, c'est-à-dire les artères, les veines, et puis les capillaires qu'il y a entre les deux. Et en utilisant cette technique, en développant des algorithmes pour pouvoir reconstituer tous ces vaisseaux qu'on voit, et en faire une véritable carte, c'est plus de 100 millions de vaisseaux, hein.
Quelque pourtant, chose c'est minuscule, d'absolument un cerveau de souris, j'ai l'impression.
Énorme.
Effectivement.
Donc,
c'est une prouesse technologique, parce qu'arriver à faire en 3D, effectivement, toute la vascularisation de ce mini cerveau. Mais par contre, c'est quoi l'application pour l'humain? Parce que j'allais vous dire, bon, évidemment, on comprend la prouesse technologique, mais à quoi ça peut servir? Le cerveau d'une souris, ce n'est pas exactement le même cerveau qu'un être humain. J'imagine que le cerveau de l'humain, il est encore plus compliqué, mais ça peut avoir des applications chez l'homme, tout ça?
Oui, alors déjà, je pense que ce qui est important, c'est qu'en faisant ça, il s'est rendu compte que les principes de la vascularisation cérébrale n'étaient pas les mêmes dans toutes les régions du cerveau. Donc, il y a déjà des spécificités. Et ensuite, il a commencé à regarder si on modifie, par exemple, la vascularisation, comme dans le cas d'un accident vasculaire cérébral.
Quand ça se bouche ou...
Comment s'adapte la vascularisation et le cerveau? Comment est-ce qu'il réagit à cette situation? Il y a un remodelage des vaisseaux qui
donc
se met en place.
Donc ça peut nous aider à comprendre l'AVC chez l'homme, hein, c'est ça l'idée, ouais. D'accord. Ok. Jimmy.
Donc on parle de cartographie du cerveau de la souris, donc on comprend que ça a l'air plus compliqué chez l'homme, mais ça veut dire qu'en fait on n'a toujours pas cartographié le cerveau. Je pensais qu'on connaissait tous les vaisseaux, qu'on avait à peu près les lobes, mais finalement c'est encore plus complexe que ça.
Bah, je crois qu'on est loin de connaître les 100 milliards de neurones. On commence à les analyser à l'échelle individuelle d'ailleurs, et on se rend compte qu'il n'y en a aucun exactement comme un autre. Et chacun a une fonction particulière. Et pourquoi est-ce qu'il est connecté à tel autre? Tout ça, ce sont des questions qui n'ont pas encore de réponse claire. Donc, étudier la souris nous donne des principes généraux qui, ensuite, peuvent être testés chez l'homme, bien sûr.
Dans quelle maladie du cerveau, ou je ne sais pas, psychiatrique, ça pourrait avoir une application de mieux comprendre en quoi cette composante vasculaire du cerveau, donc là chez la souris, mais donc peut-être après on peut cartographier des morceaux de cerveau de l'homme, hein, des petits bouts on va dire, ça pourrait avoir un rôle important dans quelle maladie par exemple?
Chez l'homme, il y a des tas de maladies des artères, déjà, ne serait-ce que les accidents vasculaires cérébraux, mais il y a aussi des anomalies des veines cérébrales, enfin, il y a des anomalies primitivement de ces vaisseaux qui donnent des pathologies vasculaires cérébrales.
Mais est-ce que dans des maladies comme l'autisme, il y a des choses qui se passent au niveau vasculaire et qui pourraient du coup aider à mieux comprendre ces
maladies? Dans d'autres pathologies, et c'est le cas par exemple de la maladie d'Alzheimer, il y a souvent des lésions non seulement des neurones, mais aussi de la vascularisation. Et quelquefois, d'ailleurs, c'est les vaisseaux qui semblent être atteints de façon prédominante dans cette pathologie. Donc il y a une intrication des deux. Et évidemment, connaître la vascularisation, la façon dont elle se met en place et dont elle s'adapte aux situations est très important.
Jimmy ?
Mais du coup, juste pour revenir sur ces souris, c'est des souris à la base qui sont malades, puisque par exemple, comment étudier le cerveau d'une souris qui aurait une sclérose en plaques ? Je ne sais pas si la sclérose en plaques existe chez les souris. Est-ce qu'elles font aussi des AVC ? Est-ce que vous arrivez vraiment à extraire des données ou c'est juste une extrapolation de l'étude du cerveau de la souris avec une zone d'incertitude chez l'homme ?
Bon, la souris est un modèle dont on connaît très bien le cerveau, et aussi grâce aux travaux dont on a parlé à l'instant. C'est donc un modèle qui nous sert à étudier les situations normales, mais aussi pathologiques. Parce qu'on peut, chez la souris, induire des pathologies humaines. Par exemple, en interrompant une artère, on va faire un accident vasculaire cérébral chez la souris. La pathologie, et on apprend beaucoup de ça. Et c'est vrai pour de nombreuses pathologies.
Professeur Ruiz, on n'en a pas terminé avec vous. On va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 pour votre émission santé. C'est sans rendez-vous tous les jours de 15h à 16h. De retour aussi avec notre invité. Aujourd'hui, c'est vous, donc professeur Alexis Brice. Vous êtes neurologue et directeur général de l'Institut du Cerveau. On va passer à la partie, on va dire recherche clinique plutôt, de l'Institut du Cerveau. Et pour illustrer tout ça, on va prendre un exemple concret, la maladie d'Alzheimer. Une maladie qui nous fait peur, évidemment, à nous tous. On sait qu'aujourd'hui, on n'a pas le traitement. C'est ce qu'on aimerait que vous nous disiez aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans des travaux de recherche clinique aujourd'hui à l'ICM, ce qu'on tente encore de faire, et ça on n'en a pas forcément conscience nous les patients, c'est de comprendre comment cette maladie apparaît. Ça c'est encore fondamental et très important.
Alors vous avez raison, c'est des questions fondamentales qui sont posées à travers l'étude de patients, des questions qui concernent soit les mécanismes des maladies, soit les traitements. Il y a aussi des essais thérapeutiques. Et on a la chance d'avoir beaucoup de cliniciens-chercheurs qui travaillent à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et à l'ICM, qui sont impliqués dans ces recherches. Et il y a à peu près 150 essais en cours dans le domaine.
Rien que sur Alzheimer et donc thérapeutique
sur l'ensemble des pathologies, une dizaine probablement sur l'Alzheimer. Mais c'est pour ça qu'on va prendre juste un ou deux exemples. Mmh. Mais c'est pour vous montrer la diversité, mais dans un cadre beaucoup plus large. Or, l'étude INSIGHT, dont il est question, qui est menée par le Bruno Dubois, avec le soutien de la Fondation de la recherche sur l'Alzheimer, est une étude de suivi d'une cohorte de sujets âgés. Ce ne sont pas des patients au départ, ce sont des sujets qui vont très bien. Ils ont juste
ils ne sont pas recrutés parce qu'ils ont la maladie d'Alzheimer.
Non,
ils sont juste un peu âgés.
Parce qu'ils sont âgés. Voilà. Et comme vous savez,
on sait que c'est l'âge, le facteur de risque principal.
Et c'est le principal facteur de risque. Et donc, certains d'entre eux vont développer une maladie d'Alzheimer. Et ce qui a été fait, c'est de regarder avec des techniques d'imagerie cérébrale, qu'on appelle TEP, de regarder si ces sujets sont porteurs de lésions qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer, qui sont les dépôts de substances amyloïdes.
L'idée, c'est de suivre ces patients âgés lambda, on va dire, au départ, longtemps, pour voir l'histoire naturelle, enfin, l'arrivée naturelle, finalement, d'Alzheimer chez certains dans cette population. Et comme vous les observez depuis le moment où ils n'avaient pas forcément la maladie, vous allez voir à quel moment on commence à avoir des signes au niveau cérébral, au niveau de l'imagerie. C'est ça, l'idée, parce qu'on les suit pendant plusieurs années. Elle a commencé quand, cette cohorte ?
Elle a commencé il y a 7 ou 8 ans, déjà. Donc, il y a déjà du recul. Et on va se servir d'un marqueur qu'on trouve dans la maladie, mais vous allez voir qu'on peut être porteur de ce marqueur sans avoir la maladie. Et donc, il s'est agi de suivre ces patients avec le marqueur amyloïde positif et de voir ce qui devenait au cours du temps. Et là, il y a deux leçons importantes qui ont été tirées par Bruno Dubois. La première, c'est que quand on regarde les capacités cognitives des sujets, eh bien, elles sont stables au cours du temps, sauf pour ceux qui, à un moment, débutent la maladie. Et donc, il y a une cassure qui survient à un moment donné, et c'est le début, l'entrée dans la maladie. Donc il ne s'agit pas d'un déclin progressif, mais d'un déclin qui tout d'un coup se déclenche et après devient un peu inexorable. Donc ce n'est pas tout à fait ce qu'on pensait avant, et c'est intéressant de voir qu'il y a une compensation complète qui se fait jusqu'à l'apparition des premiers symptômes. Complète.
Jimmy ?
Mais du coup, alors, on arrive à diagnostiquer finalement, on arrivera peut-être à diagnostiquer un peu plus rapidement la maladie, mais est-ce que ça aura une application clinique ? Est-ce qu'on pourra la prévenir ou en tout cas avoir une piste de traitement avec cette étude ?
Alors, il faut que je vous dise le deuxième point important, parce que c'est que tous les sujets qui ont cette amyloïde cérébrale ne développent pas la maladie. Et donc, en les suivant, il y a simplement un sous-groupe qui développe la maladie. Donc là, il y a une première question essentielle, c'est de savoir quels sont les facteurs qui font que
certains... Quelle est la différence ? Ils ont tous des plaques, mais ils n'ont pas tous la maladie. Oui.
Alors, ces sujets qui participent à l'étude ont toutes sortes d'analyses, de prélèvements, etc.
Mais j'allais dire, on fait quoi ? Ces patients qui sont volontaires, hein, viennent, qui sont des patients d'ailleurs, des cobayes, enfin sains, des volontaires sains hein, au départ.
Tout à fait.
On leur fait quoi comme
On leur fait beaucoup d'analyses. Ils sont très patients,
sont sympas,
on les remercie beaucoup. Mais c'est vrai que c'est important. Et
des
du coup,
de sang,
ils ont des prises de sang, des examens de différents fluides biologiques... des examens d'imagerie cérébrale, des tests neuropsychologiques.
Mais ils sont très volontaires et très contents. D'ailleurs, il y en a peu qui vous ont lâché en chemin, je
Absolument,
crois.
Absolument.
Hein, à part ceux qui tombent malades éventuellement, mais ils restent dans l'étude motivés.
Ils reviennent, et ils reviennent régulièrement participer à l'étude. Et donc, pour répondre à la question, quand on aura la réponse sur les facteurs qui finalement induisent à la fin de la maladie d'Alzheimer, ce sera très important parce qu'on pourra repérer les sujets les plus à risque. On saura à quel moment il faut les
débuter
traiter,
un traitement quand on
sûr,
en aura un, bien
le
sûr.
Le plus tôt possible. Ouais. Et évidemment, la question qui reste et que vous soulevez, c'est celle du traitement et quand est-ce qu'on aura un traitement efficace. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en a pas, mais il y a quand même des petits frémissements avec certaines molécules. J'espère que ça va être confirmé. Ce serait une avancée remarquable.
C'est notre souhait, évidemment. À l'ICM, il y a aussi un incubateur avec des start-up au cœur de cette recherche clinique. Pour illustrer ça, on va prendre un exemple avec des travaux qui ont permis de franchir l'infranchissable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi je parle, justement ?
Alors l'incubateur, oui, vous le mentionnez, je crois que c'est important parce que c'est quand même une originalité de notre modèle, c'est d'avoir un incubateur in situ avec des entreprises qui peuvent être montées par des chercheurs de l'ICM, mais aussi venant de l'extérieur. 50 startups ont déjà été incubées, ça a permis de lever de l'ordre de 300 millions d'euros et de créer 600 emplois. Donc c'est pas rien économiquement.
Bien sûr. Et franchir l'infranchissable, alors ça veut
alors,
dire quoi ?
C'est quoi ?
Dans le cerveau, justement.
Alors là, on est toujours dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, mais il s'agit d'une collaboration entre Stéphane Applebaum, un neurologue du site, et Alexandre Carpentier, qui est un neurochirurgien aussi du site, qui a monté une start-up, qui s'appelle Cartera, et dont le produit est un système d'ultrasons qui peut être dirigé dans le cerveau. Et
pourquoi
l'objectif de ces ultrasons, c'est d'ouvrir la barrière qui existe entre le sang et le cerveau.
Parce que notre cerveau, il est très bien protégé. Hein.
Très, très bien protégé.
Naturellement, je veux dire, on a tous cette barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. C'est quoi précisément ? Elle nous protège de quoi, cette barrière ?
Alors, elle protège de toutes sortes de molécules qui pourraient passer du sang au cerveau. Et donc, il y a une barrière très difficile à franchir. Et c'est un problème pour les médicaments, par exemple.
Quand on a un cancer du cerveau, par exemple, pour aller faire percer ces médicaments à l'intérieur du cerveau, c'est difficile, hein, c'est ça ? Et donc, il faut l'ouvrir, cette barrière.
Il faut l'ouvrir. Et les ultrasons appliqués au tissu cérébral permettent de l'ouvrir et de l'ouvrir de façon réversible pendant quelques heures. Puis elle se referme.
Jimmy, ça vous inspire quoi, ça ?
Ça n'a pas l'air comme ça, mais on ne se rend pas compte de la prouesse technologique que c'est, et technique et médicale, l'avancée extraordinaire. Ouvrir cette barrière hémato-encéphalique qui doit nous protéger du milieu. C'est un milieu qui est censé être stérile. Donc, c'est-à-dire que concrètement, une fois qu'on l'ouvre, qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait nettoyer à l'intérieur ? Quelle application concrètement pour que... C'est vrai que parfois, c'est un peu technique pour les gens.
C'est vrai, pourquoi l'ouvrir ? Exactement.
Ouais. Ben, on l'ouvre soit pour y faire pénétrer une molécule. Et
un médicament,
justement,
ouais.
Notre collègue Alexandre Parcarpentier a montré que on pouvait, dans le cadre de tumeurs cérébrales, faire pénétrer des médicaments
chimio,
à des taux
exemple, ouais.
5 à 6 fois plus importants que
pour
si la barrière est fermée.
Bien sûr.
Donc, il devrait pouvoir être plus efficace. Il avait fait ses travaux avec Jean-Yves Delattre. Et puis là, dans l'étude dont je vous parle, c'est l'inverse. C'est l'idée de faire, au contraire, sortir, de nettoyer le cerveau. Et là, on s'adresse à ces dépôts amyloïdes,
ces plaques qui se mettent dans le cerveau et qui sont en cause dans la maladie d'Alzheimer. Là, on pourrait nettoyer. On l'ouvre la barrière, on nettoie, on referme, c'est ça ?
Et elle se referme tout seule. Et donc, l'idée, c'est de regarder si, effectivement, en ouvrant la barrière, on est capable d'activer des mécanismes qui vont aboutir au nettoyage de ces plaques.
On ne sait pas encore si ça fonctionne, j'imagine.
Non,
hein,
c'est vraiment une étude extrêmement originale. Je pense que c'est un peu ça, l'idée aussi de l'ICM. C'est prendre des risques, étudier des pistes vraiment complètement nouvelles, originales, combiner les disciplines, des biologistes, des médecins, des scientifiques, et puis tirer parti de toutes les avancées technologiques.
Merci beaucoup, professeur Brice, d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir permis de mieux comprendre les travaux de ces chercheurs qui travaillent très dur, donc pour mieux comprendre et surtout soigner notre cerveau demain. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, focus sur l'opération des végétations. D'abord, tout simplement, savez-vous ce que c'est précisément les végétations ? Est-ce un organe ou autre chose ? Parfois, pourquoi faut-il les enlever, essentiellement chez les enfants ? Benjamin Lévesque a été tester vos connaissances sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
C'est pas un truc dans la gorge, ça peut être les amygdales, je sais pas moi, quand on a mal, quand on a mal, ou quelque chose en lien avec les cordes vocales. Ou
je sais qu'il a les gens en état végétal, donc je sais pas si c'est opérer une personne qui est dans un état végétal.
Je pense que c'est une opération au niveau de l'estomac, des intestins, je sais pas, des résidus qui restent coincés dans les intestins peut-être.
Bah, je pense que c'est dans le nez. Alors, je ne sais pas si c'est des canaux qui se bouchent.
L'opération, ce serait quelque chose qu'on met dans la gorge pour soigner. À mon avis, une incision, ça me semble un petit peu délicat, non? Dans la gorge, je ne sais pas.
D'après moi, tout ce qui est opération, ça va faire toujours mal. Donc, même ça, je pense qu'il aura une anesthésie générale.
Je ne pense pas qu'on soit endormi. Hein. Ils doivent soit passer des petites sondes dans ces canaux et je pense que ça doit se faire rapidement.
Alors Jimmy, on va reprendre du début d'abord les végétations d'un point de vue anatomique et même peut-être géographique entre guillemets. C'est un organe à part entière, ça se trouve où donc géographiquement dans notre corps humain?
Alors c'est vrai que les végétations c'est pas très docteur comme langage médical. Appelez ça plutôt les végétations adénoïdes.
Ah voilà, ça vous ressemble mieux.
Mais, hein. Non mais vous brillerez en société grâce
adénoïdes,
à ça.
Adénoïdes, ok.
Exactement.
Très bien.
Elles font partie du système immunitaire et c'est un organe immunitaire secondaire comme les amygdales. Et on les trouve dans la partie postérieure des fosses nasales, c'est-à-dire
donc,
derrière.
Au fond du nez, au fond de la gorge.
Exactement, au-dessus du voile du palais, au fond de la gorge, tout juste derrière la luette. Et vous savez pourquoi on appelle ça végétation?
Bah non, parce que ça végète, ça ne sert à rien.
Elle présente des petits bourgeons de muqueuse et elle ressemble à de la végétation, elle bourgeonne. C'est poétique en plus d'être médical.
Je trouve ça pas très joli au départ, mais maintenant que vous me faites penser à de la végétation, peut-être c'est mieux. Alors ces végétations, parfois on est amené à les enlever. Hein, est-ce qu'elles ont vraiment, parce qu'on les enlève, est-ce qu'elles ont vraiment un rôle dans l'organisme? Elles servent à quoi?
Comme les amygdales, elles agissent comme un filtre contre les microbes qui peuvent être introduits dans l'organisme. Mais parfois, lorsqu'elles sont trop grosses, trop hypertrophiées, ça peut poser problème, notamment chez les enfants.
Alors, quand elles sont trop grosses, les végétations, ça crée quoi comme problème?
Et bien à ce moment-là, quand elles sont trop grosses, vous faites des rhinopharyngites à répétition, vous faites des otites à répétition, une otite séreuse.
Des infections un peu de la sphère ORL.
Exactement, qui vont conduire chez l'enfant parfois à un défaut de l'audition.
Ah oui, carrément.
Parfois, lorsqu'elles sont trop grosses et qu'elles obstruent complètement l'air de passer, notamment lorsqu'en plus vous avez de grosses amygdales, ça peut être responsable d'apnée du sommeil chez les enfants.
Ces enfants qui ont un peu le nez bouché, hein, c'est ça, tout le temps.
Qui ont le nez bouché en permanence. Et donc à ce moment-là, on décide de les retirer. Tout de suite, ça va mieux. Et
on fait ça chez les enfants de quel âge en général? Moi, j'ai été opérée personnellement. Petite confidence personnelle. J'avais 2 ans, je crois. On le fait plutôt chez des petits-enfants. Hein.
C'est ça, exactement. Ouais. C'est plutôt l'enfant, plutôt aux alentours de 2 ans jusqu'à 6 ans, puisque après 6 ans, votre système immunitaire est compétent, vous avez rencontré quasiment l'intégralité des petits virus et donc vous tombez un peu moins malade. Et donc avant 6 ans, on le fait et puis on le fait rarement au-delà de 12 ans. Et puis chez les adultes, quasiment jamais.
Ouais. Et même chez les enfants, moi je me souviens quand je me suis opérée, je parle encore une fois de moi, excusez-moi, mais à l'époque, en tout cas dans les années 90, on opérait tout le monde des végétations. Oui. J'étais un peu, toi tu l'as fait, moi j'ai été opérée, les amygdales aussi, on le fait moins maintenant, aujourd'hui systématiquement en tout cas.
On était très interventionniste et en revanche on l'est encore dans certains pays, il faut reconnaître ça en France, les ORL ne sont pas des garagistes et ils ne décident pas de vous opérer juste parce qu'il faut vous opérer, il faut vraiment qu'il y ait un retentissement, ce n'est pas au bout de 3 rhinopharyngites ou 3 otites qu'on va vous opérer, donc évidemment qu'on a pris un peu de recul, et heureusement, puisque parfois l'intervention n'est pas nécessaire.
D'accord, et alors justement, rapidement, l'intervention en lui-même, c'est quelque chose de lourd, ça se passe comment?
Anesthésie générale, elle est très courte, ça dure quelques minutes. Souvent le chirurgien, il en profite lorsque c'est nécessaire pour poser des yo-yo.
On en avait déjà parlé, pour les otites,
Il passe par la gorge, forcément, c'est pas très douloureux, c'est pas très compliqué, c'est moins agressif que l'ablation des amygdales.
Dont on parlera peut-être une autre fois,
exactement,
effectivement,
qui sont plus
douloureuses.
En général, il n'y a pas d'hospitalisation, c'est en ambulatoire, et au bout de quelques heures, on peut rentrer à la maison.
Et alors, quand on rentre à la maison, si vous avez dit que ce n'est pas une opération très lourde, le geste en lui-même pour les retirer, c'est 5 minutes. Après, on mange de la soupe peut-être, parce que quand même, on doit faire un peu mal dans la gorge.
Oui, de la soupe et puis des glaces. Les enfants sont contents dans les jours qui suivent. Ça permet de mieux cicatriser et permet d'éviter d'avoir des douleurs. Et on évite évidemment tout ce qui est chaud ou épicé. De toute façon, l'arissage chez l'enfant, c'est pas forcément recommandé. Et puis, il peut y avoir des petits saignements qui sont souvent bien contrôlés. Tout se passe bien en général.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et vous êtes avec nous depuis 15h pour cette dernière séquence de l'émission. Nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va dire à Jimmy de lire la question qu'on a reçue. C'est une question de Benjamin et je vous laisse la parole, c'est pour voir si vous suivez Jimmy.
Très bien, j'ai rencontré un garçon il y a quelques jours, super feeling, nous nous entendons super bien. Nous avons évoqué nos préférences sexuelles et problèmes. Nous sommes tous les deux actifs. Comment surmonter cet obstacle?
Donc c'est bien une question d'un homme.
D'un garçon.
Je
l'ai fait dire par Jimmy.
Non mais peut-être un petit point sur ce qui est passif, actif. C'est pas toujours très clair dans l'esprit des gens.
Alors c'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'en général quand on parle d'homosexualité, on dit qui fait l'homme, qui fait la femme. Ce qui était encore une drôle de chose, c'est de vouloir toujours amener la sexualité à la sexualité hétérosexuelle. Donc, effectivement, les homosexuels vont dire passif actif, ce qui serait évidemment une injure incroyable de dire qu'une femme serait passive quand un homme est actif, puisqu'une femme est tout aussi active en recevant et en participant de la sexualité par sa façon d'accueillir, par sa façon de bouger, etc. Donc, il y a toujours actif et actif. Après, il y a pénétrant et pénétré. Donc, on devrait le dire dans ce sens. C'est qui pénètre qui ? Pour parler du sexe.
Mais dans un couple homosexuel homme, il y a toujours un pénétré, un pénétré. Enfin, je veux dire, il y a toujours un actif, un passif, comme on dit, ou pas du tout d'ailleurs.
Bah, je pense que
il y en a qui peuvent être deux actifs. Non, c'est possible.
Je pense que dans les relations, comme c'est le cas dans des relations hétérosexuelles, quand bien même il y a un pénis qui rentre dans un vagin, il y a quand même aussi des actions de part et d'autre, où celui qui est plus majoritairement, naturellement pénétrant de par son organe convexe, eh bien, d'autres types de jeux érotiques se retrouvera pénétré. Donc, en fait, c'est comme dans un baiser. Un baiser, les bouches se mêlent, les langues se mêlent. Et est-ce qu'on décide de qui est la langue qui a le droit de rentrer dans la bouche de l'autre parce qu'il y en a un actif et un autre passif ? C'est assez curieux. C'est une idée de domination de l'un sur l'autre. Je pense que le sujet, il n'est pas là. Il est que tout d'un coup, deux hommes se rencontrent, deux hommes ont envie l'un de l'autre et deux hommes ont envie de pénétrer l'autre. Ils peuvent se dire, tiens, c'est bizarre, on a les mêmes goûts, donc il n'y a pas de terrain d'entente possible. Mais a priori, on peut se dire, à moins bien sûr que ce soit des rencontres par smartphone, et donc du coup, on n'a pas pris le temps de se flairer un tant soit peu, mais sinon, en général, les gens s'accordent. On sent bien les humeurs des uns et des autres, on sent bien les possibilités que l'on a, parce qu'on est tous potentiellement dans une position de soumission, ou dans une position de domination, dans une position de pénétration, ou dans une position d'accueil. Comme quand on parle, on peut être très bavard et on peut être très à l'écoute. On n'est pas cantonné à un seul rôle, bien évidemment.
Docteur Jimmy Mohamed.
Sinon, comme au manège, on prend un ticket, on attend son tour, on fait chacun une petite partie, histoire de pas de perdant, pas de gagnant.
Il faut qu'il ramène ça au manège. Alors,
passif ne veut pas dire perdant
ou gagnant.
Non, mais néanmoins, vous l'avez dit, c'est vrai qu'on résume souvent l'acte sexuel à la pénétration et vous nous avez souvent dit que les préliminaires comme les caresses ne sont pas des préliminaires, ce sont déjà un acte sexuel.
Donc,
arrêtons de voir un zizi dans un trou comme le seul acte ultime d'une relation sexuelle.
Absolument. Et à ce titre, que deux personnes se plaisent, elles vont jouer ensemble et elles vont jouer à interchanger des rôles jusqu'à la limite de leurs possibilités. Et s'il y a un moment donné où ça n'est pas possible et qu'il n'y a que deux pénis qui ont envie de jouer aux épées, parce qu'ils ne peuvent pas accepter d'être accueillants ou pénétrer l'autre ou d'être pénétré, eh bien c'est que la relation en reste là. Mais ça, c'est vrai aussi. Imaginons un couple hétérosexuel avec deux personnes qui veulent être chef à bord. De chef à bord, ça fait peut-être de délicieuses disputes et comme ça, un couple s'organise merveilleusement dans des luttes de clochers ou des impossibilités totales et le couple n'existe pas.
Et puis Catherine aussi, donc là c'est une relation débutante, il parle de quelques jours, de super feeling, on s'entend bien, mais peut-être qu'ils vont tomber amoureux aussi, ça peut arriver. Est-ce qu'avec les sentiments, de toute façon, finalement, peut-être qu'ils auront envie chacun d'alterner le rôle, justement, et c'est ça, après on a envie de faire plaisir à l'autre, se faire plaisir, mais aussi faire plaisir à l'autre, c'est ça ? Et donc échanger un peu les rôles de temps en temps ?
De toute façon, si ce couple se fait couple, puisqu'encore une fois, là, on est dans une découverte avec une idée de feeling, peut-être simplement sur une idée esthétique et une projection sur l'autre. Maintenant, si cela est confirmé par l'envie de créer quelque chose, c'est qu'il y a une base d'adéquation. Et sur cette base d'adéquation, il y a une ouverture qui se fait de part et d'autre pour que celui qui... Alors évidemment, l'erreur serait qu'il y en ait un qui se soumette à l'autre pour pouvoir faire perdurer la relation et auquel cas, il se ferait du mal parce qu'il ne se respecterait pas. Il n'est pas question qu'il y ait une sorte de bras de fer entre les deux. Mais s'il y a une relation qui se crée, c'est qu'il y a automatiquement un chemin possible entre les deux.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc, à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans Sans Rendez-vous, une émission consacrée à la charge mentale des enfants. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter, c'est promis. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour Mélanie. Vous le savez, la thématique de notre émission, c'est une brochette de personnalités historiques qui, a priori, n'ont rien en commun. Si je vous dis Barbara Cartland, Jane Austen et Bruno Le Maire.
Écoutez, je me dis que j'ai très envie de vous écouter. Ça m'inspire beaucoup de curiosité, en tout cas.
Je vois votre œil lubrique. Et donc, restez avec nous, ça va vous plaire.
Merci beaucoup Mathieu. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.